journal, Florence Paracuelos. Bonjour Florence.
Bonjour Ali, bonjour à tous. À la une ce matin, la tactique de la SNCF face à la grève qui paralyse les TGV Ouest. Elle va réquisitionner des rames ailleurs pour faire rouler 8 trains sur 10 à partir de demain pour le week-end de la Toussaint. Face à des grévistes qui ne cèdent rien, voilà qui semble de bien mauvais augure pour le gouvernement et sa réforme des retraites. Alors qu'on s'interroge sur l'état psychique de l'auteur de l'attaque de la mosquée de Bayonne, retour sur celle de la préfecture de police de Paris au début du mois. Quelles étaient vraiment les motivations de l'assaillant? Selon nos informations, le motif terroriste n'est toujours pas établi par les enquêteurs. Enfin, un vote positif à Londres, vote pour des élections législatives en décembre. Boris Johnson remporte la première partie de son pari. Le blues des agriculteurs en pleine renégociation de la PAC à Bruxelles, voilà de quoi il sera question dans le grand entretien tout à l'heure.
Entre autres, puisque nous recevons le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, Didier Guillaume, à 8h20. Le standard est ouvert, posez-lui vos questions dès maintenant au 01 45 24 7000 ou sur l'application France Inter.
Dans ce journal aussi, notre série sur les murs qui nous séparent à la frontière entre les deux Corées ce matin. Chassé avec des enceintes connectées pour attirer les oiseaux, bien tenté, mais c'est interdit. Et puis la suite de Shining au cinéma ce mercredi.
France Inter.
Il y a ceux qui annulent leur voyage, ceux qui prennent la voiture, le bus ou même l'avion. Troisième jour de grosses déconvenues pour les voyageurs des TGV Ouest. Pas plus de 3 trains sur 10 encore aujourd'hui. Les grévistes de la maintenance de Châtillon ne lâchent pas. Eux qui ont obtenu satisfaction sur la réorganisation de leurs conditions de travail demandent maintenant le paiement de leurs jours de grève. Et la pression monte à l'approche du pont de la Toussaint, alors que la direction de la SNCF entend rester ferme, Fabien Cazot.
Si on lâche sur le paiement des jours de grève, on est foutu pour 10 ans, soupire un haut dirigeant de la SNCF. Impossible de lâcher alors que le nouveau président, Jean-Pierre Farandou, prendra ses fonctions vendredi et qu'un vaste programme de réforme l'attend. Le sortant, Guillaume Pépi, ne veut pas prendre l'initiative face à une mobilisation qui a tout d'un bizutage social à l'égard de son successeur. Lors de son audition à l'Assemblée nationale début octobre, Jean-Pierre Farandou avait mis l'accent sur la nécessité de rendre les cheminots plus polyvalents, de rendre la SNCF plus productive. Face aux blocages qui sont une réponse directe à cette feuille de route, la direction mise sur une stratégie en deux temps. D'abord, mettre plus de trains en circulation d'ici la fin de la semaine en réorientant les TGV d'autres lignes vers la façade atlantique et miser sur l'exaspération des voyageurs pour finir par faire plier les grévistes sans rien concéder sur le paiement des jours non travaillés.
Et tout cela n'est sans doute qu'un apéritif avant la grande grève du 5 décembre. Peut-être reconductible. Cheminots et agents de la RATP se mobiliseront pour défendre leur retraite. C'est donc le gouvernement qui sera directement visé. Karine Bécard, il devra d'ici là jouer serré.
Toutes les options sont toujours sur la table. Voilà ce que dit le gouvernement sur sa réforme des retraites. D'ailleurs, demain jeudi, le ministre des Transports recevra une nouvelle fois les syndicats de cheminots pour continuer à discuter. Mais pour le député de la majorité, Jean-François Cesarini, vu les tensions aujourd'hui, cela ne suffit pas.
Ça vaut pour l'hôpital comme ça vaut pour la SNCF. Ne laissons pas pourrir des situations de mouvements sociaux. Attention de ne pas refaire les mêmes erreurs que sur les gilets jaunes, de prendre vraiment le mouvement social à la racine, de parler vite avant qu'il soit trop tard.
Autrement dit, le gouvernement ne doit pas attendre le 5 décembre pour lâcher du lest. Ce qui n'est pas du tout l'avis d'une autre partie de la majorité. Roland Lescure, le président de la commission des affaires économiques, estime que le gouvernement doit jusque-là tenir.
On monte les muscles une fois le 5 décembre, ensuite on s'assoit autour d'une table, on regarde les choses de manière raisonnable, en n'oubliant pas les grands principes qui est qu'un système de retraite au 21e siècle, il n'y a pas de raison qu'un chauffeur de train de Paris, de Rouen, de Navarre ou qu'un chauffeur de bus de Paris ou de Saint-Etienne ait des retraites différentes.
Ce n'est pas exactement l'esprit de l'acte 2 du quinquennat, mais pour une partie conséquente de la majorité, le gouvernement doit continuer à montrer sa capacité à réformer parce que cette qualité, les Français veulent bien encore lui accorder.
Karine Bécard, interdire aux mères voilées d'accompagner les sorties scolaires. Une majorité des sénateurs ont voté pour hier après 5 heures de débat. Un vote qui n'a quasiment aucune chance de passer à l'Assemblée. Le gouvernement n'y est pas favorable. C'est une proposition contre contre-productive, a jugé Jean-Michel Blanquer. Pendant ce temps-là, Emmanuel Macron prenait la parole pour condamner ceux qui se servent de la laïcité pour mener le combat contre telle ou telle religion. Le président s'exprimait pour la première fois après l'attaque de la mosquée de Bayonne avant-hier. La République fait bloc autour des victimes, dit-il. Discours prononcé à l'inauguration du nouveau centre européen du judaïsme à Paris. Au sujet de l'enquête sur cette attaque, des questions se posent sur la santé mentale de l'octogénaire qui a gravement blessé deux personnes. Il dit avoir voulu venger la destruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris qu'il attribue aux musulmans. Il était examiné par un psychiatre hier, selon le procureur de Bayonne. Son portrait à lire sur franceinter.fr.
8h06 et revenons maintenant, Florence, sur l'attaque qui a relancé le débat sur la radicalisation islamiste.
L'attaque de la préfecture de police de Paris le 3 octobre, au cours de laquelle un agent a tué 4 de ses collègues. Une commission d'enquête a été constituée à l'Assemblée nationale pour faire la lumière sur ce qui a dysfonctionné avant les événements. Elle mènera ses premières auditions cet après-midi, alors que le caractère terroriste de cette attaque n'a pas été établi pour l'instant. Emmanuel Leclerc.
C'est la façon dont Michael Harpon a attaqué ses collègues au couteau qui fait toujours penser à une attaque djihadiste, confie un proche du dossier. Mais pour le reste, il n'y a rien à ce jour qui s'apparente à un acte terroriste. Selon nos informations, ce sont bien les premières conclusions auxquelles sont arrivés les différents services antiterroristes chargés de l'enquête. L'audition de l'épouse et les éléments recueillis depuis font dire aux enquêteurs que le passage à l'acte est bien lié d'abord à un délire mystique et suicidaire sur fond de frustration professionnelle aggravée par son handicap de surdité, sa radicalisation religieuse, ses relations avec une mouvance salafiste dans sa mosquée ne seraient pas le moteur principal. Par ailleurs, les services de renseignement n'ont toujours pas trouvé le moindre lien avec une organisation terroriste islamiste, pas de revendication, pas d'allégeance. Il n'y a aujourd'hui aucun indice sur la transmission par Michael Harpon de documents compromettant la sécurité de ses collègues. Enfin, les vidéos de Daesh retrouvées dans sa clé USB de travail appartiennent en fait à des policiers de son service. Michael Harpon s'occupait justement de transférer les contenus informatiques lorsque des agents changeaient de poste.
Emmanuel Leclerc, les policiers et leurs 23 millions d'heures supplémentaires non payées, 165 heures par agent en moyenne. Le ministre de l'Intérieur confirme qu'il va commencer à apurer le stock et régler 3,5 millions de ces heures d'ici la fin de l'année en débloquant 50 millions d'euros. Ça n'a pas marché avec Renault, et si Fiat Chrysler se mariait finalement avec PSA, le constructeur italo-américain discute fusion avec le deuxième groupe automobile français, un rapprochement à 50 milliards de dollars. C'est une bonne nouvelle, la croissance se maintient en France, plus 0,3% au troisième trimestre, c'est mieux que ce que prévoyaient les économistes.
Et cette fois, c'est la bonne.
Après 3 tentatives au Parlement, Boris Johnson réussit à faire voter des élections législatives anticipées. Elles auront lieu le 12 décembre. Elles lui permettront, il l'espère, d'obtenir une majorité absolue qu'il n'a pas pour l'instant pour faire enfin sortir le Royaume-Uni de l'Union européenne. À Londres, Antoine Gignot.
438 voix en faveur de ces élections législatives, 20 voix contre seulement. Cette fois, c'est une certitude, le scrutin aura lieu le 12 décembre. La campagne électorale a d'ailleurs déjà commencé. C'est l'occasion, disent les libéraux-démocrates, de mettre fin au Brexit une fois pour toutes, pendant que Jeremy Corbyn, le chef de file de la gauche, s'adresse directement aux jeunes. Ce scrutin, dit-il, c'est une chance unique pour toute une génération de transformer le pays. Pourtant, dans les sondages, les travaillistes sont donnés systématiquement perdants, avec entre 2 et 16 points de retard sur les conservateurs, selon les instituts et les enquêtes d'opinion. À droite, malgré ces chiffres encourageants, Boris Johnson fait profil bas. Ce sera une élection difficile, lance le Premier ministre. Nous ferons du mieux que nous pourrons. Il est temps que le pays se réunisse et termine le Brexit. Car s'il veut conserver sa majorité, le chef du gouvernement va devoir rassurer les électeurs à qui il avait promis une sortie de l'Union européenne le 31 octobre. Ceux qui, déçus par les conservateurs, pourraient se tourner vers la droite de la droite, Nigel Farage et son parti du Brexit. Londres, Antoine Gignot, France Inter.
Voilà la suite de ce calendrier plein de surprises. C'est la dissolution du Parlement mercredi prochain, avant ses troisièmes élections générales en 4 ans, et un Brexit prévu au plus tard le 31 janvier. La liesse au Liban après la démission du Premier ministre Saad Hariri hier à l'issue de 2 semaines de contestation dans la rue. Mais quel est aujourd'hui l'avenir politique du pays? Jean-Yves Le Drian, chef de la diplomatie française, estime que cette démission rend la crise encore plus grave. Et que dire de la situation en Syrie? Les forces kurdes se sont retirées du nord à la frontière turque, laissant les militaires turcs et leurs supplétifs face à l'armée de Bachar el-Assad qui s'affronte directement désormais dans la zone. Une autre frontière maintenant pour cette série sur les murs qui nous séparent chaque matin à l'approche du 30e anniversaire de la chute du mur de Berlin. La semaine prochaine, on vous emmène entre les deux Corées divisées depuis 1945 par une frontière hermétique. Aucun contact entre les deux côtés, même après la reprise du dialogue l'an dernier. Et le long de cette ligne de démarcation côté sud, voici un village improbable. Pensez comme un pied de nez aux voisins du nord. C'est un reportage de Frédéric Ojardias.
Un paysage de barbelés, de miradors, de champs de mines et au beau milieu, quelques maisons basses et une église. Bienvenue à Tongilchon, le village de la réunification. Précision du soldat qui nous accompagne.
Cette zone est interdite aux civils. Les seules personnes autorisées à vivre ici sont des familles choisies pour leur indéfectible esprit anticommuniste. Elles se voient offrir divers avantages comme des exemptions fiscales. La création de ce village en 1973 était une sorte de déclaration adressée au Nord.
La Corée du Nord est si proche que l'on entendait jusqu'à l'année dernière ses émissions de propagande. Mais les haut-parleurs se sont tus depuis la reprise du dialogue. Vivre sur la frontière la plus militarisée au monde ne semble guère émouvoir cet agriculteur rencontré dans la seule supérette du village.
Là, juste devant nous, on voit un village nord-coréen. Je n'ai pas peur. Même si on vit au milieu des tensions, il n'y a aucune raison d'avoir peur. Et si la guerre éclate, les bombes ne tourneront pas ici. Elles nous passeront au-dessus.
Depuis février, Pyongyang refuse tout dialogue avec Séoul. Le jour où les 400 villageois pourront rendre visite à leurs voisins nord-coréens est encore bien loin. Tongilchon, Frédéric Ojardias, RFI pour France Inter.
Et à l'autre bout du monde, la situation ne risque pas de s'arranger en Californie où des vents jusqu'à 100 km/h sont attendus dans le nord de l'État, ravagé par de monstrueux incendies que les pompiers n'arrivent pas à maîtriser.
8h12 et on part à la chasse maintenant.
Avec des chasseurs qui ne jouent pas tout à fait le jeu, il faut le dire, ils n'ont pas d'appeau, mais des enceintes connectées pour attirer les oiseaux migrateurs. C'est interdit. Nous sommes dans la forêt, du côté de Fontaine, dans l'Hérault, où 4 jeunes chasseurs se sont fait pincer, Louis-Valentin Lopez.
Le cri de la grive, le roucoulement de la palombe, amplifié par des enceintes, des cris que les agents de l'Office de la chasse et de la faune sauvage ont entendus de loin. Vincent Arbourièche, le chef du service départemental.
Les agents sont tombés sur plusieurs chasseurs qui utilisaient leur smartphone avec soit une application, soit sur YouTube ou d'autres sites en ligne, avec des enceintes connectées qui permettent de reproduire le chant des oiseaux et évidemment d'attirer les grives qui sont de passage.
18 grives, une palombe, le butin des chasseurs connectés. Attirer les oiseaux par ce procédé, une technique qui ne date pas d'aujourd'hui.
Certains chasseurs, à l'époque, utilisaient des vieilles cassettes avec des télécommandes. Ce sont des pratiques qui malheureusement existent et dont certaines personnes usent et abusent. C'est à l'encontre un peu de l'éthique de la chasse. Normalement, au passage, le chasseur est à l'affût. Il attend que les oiseaux qui migrent vers le sud passent au-dessus de lui pour pouvoir en prélever quelques-uns.
Les fusils et les enceintes ont été saisis. Le parquet décidera des poursuites. Les chasseurs risquent un retrait de leur permis de chasse et une amende de 1 500 € maximum.
Les appos 2.0, ça n'est pas autorisé. La partie de campagne continue en Haute-Garonne, pas avec des animaux du cru cette fois, mais avec un caïman qui prenait un bain de soleil au bord de l'Erse. C'est une rivière du nord de Toulouse. Une promeneuse l'a vue et a donné l'alerte. La bête a été transportée à l'école vétérinaire de Toulouse. On ignore comment elle s'est retrouvée là, dans la nature. On adore, en revanche, quand le sport nous prouve que rien n'est jamais écrit d'avance. Pour preuve, au tournoi de tennis de Bercy hier soir, le russe Medvedev, 4e mondial, s'est incliné face au français Jérémy Chardy, 65e, 4-6, 6-2, 6-4. C'était encore le premier tour, alors que le russe est arrivé en finale des 6 derniers tournois qu'il a disputés. On verra aujourd'hui si Corentin Moutet et Adrienne Manarino ont la même veine face à Djokovic et Nadal. Enfin, si je vous parle des couloirs interminables de l'hôtel Overlook, de la couleur et des motifs de sa moquette, du bruit du tricycle qui passe dessus et des fantômes qu'abritent ses chambres, vous aurez reconnu.
Je tremble, c'est Shining.
Shining de Kubrick, adapté d'un roman de Stephen King. La suite s'appelle Dr. Sleep. C'est un livre et un film désormais au cinéma, sorti ce mercredi et signé Mike Flanagan. On y suit le jeune Danny, devenu adulte, incarné par Ewan McGregor, qui doit encore et toujours affronter ses démons. Hélas, Sophie, Corinne Pellissier, n'est pas Kubrick qui veut.
jouer avec nous.
Stephen King avait détesté l'adaptation de Shining par Stanley Kubrick, trop éloignée de son roman. Cette fois-ci, Mike Flanagan, qui réalise le film, suit l'histoire à la lettre, mais sans grand relief. Beaucoup de scènes cultes du précédent film ont été recyclées avec des acteurs vaguement ressemblants. Et Danny, devenue adulte, va passer une grande partie de l'histoire à tenter d'exister aux côtés d'une adolescente en détresse.
Tu m'entends? Tu as des pouvoirs magiques, comme moi.
Magique, je sais pas. J'ai toujours appelé ça le Shining.
Kyle Curran, véritable révélation à 14 ans de ce Dr. Sleep face à un Ewan McGregor pas toujours très consistant. Bon point en revanche pour l'atmosphère du film angoissante et poisseuse à souhait, à l'image de l'hôtel Overlook, de ses fantômes et de son labyrinthe que l'on retrouve avec plaisir.
Ces gens-là font du mal à ceux qui sont comme nous.
Une nouvelle chasse aux démons, incarnée cette fois-ci par une bande de marginaux tueurs d'enfants, au pouvoir très puissant, beaucoup d'hémoglobine, quelques longueurs, mais un récit qui séduira les amateurs de sensations fortes.
Voilà, pas de résilience pour le petit Danny. Si le film a l'air correct sans plus, on peut toujours revoir Shining.
Ça c'est sûr, mais j'irai quand même voir celui-là. Merci Florence Paracuelos.